qu'il arrive, Dionysos s'empare de la ville de Thèbes. Non pas par les armes, en écrasant de force les hommes et les phénomènes qui lui résistent, non. Dionysos s'immisce dans la terre, le terreau, la ressource même de la cité. Il y déchaîne les femmes. Il en fait ses suivantes, c'est-à-dire des bacchantes, du nom de Bacchos, une des fameuses appellations de Dionysos. Celles reprises par les Romains qu'il appelleront Bacchus, et le réduiront toujours davantage au dieu du vin, de l'ivresse, des orgies et de la démesure. Pour faire des femmes ses suivantes, Dionysos leur octroie deux de ses symboles. Une peau de faon, appelée nébride en grec, signe d'insouciance, de légèreté et de liberté propre au jeune animal sauvage. Ainsi qu'un bâton entouré de feuilles de lierre, un thyrse qui confère à celui qui le brandit force et vigueur. Après avoir pourvu ainsi les femmes de Thèbes, Dionysos leur fait quitter leur statut d'épouse modèle, de fidèle et consciencieuse femme au foyer, et leur fait pousser à sa suite ce cri de délivrance qu'est l'Olelugée. Expression de libération enthousiaste à la vie, d'arrachement des structures et idées excessivement réglées, trop rationnelles, trop morales, dont la ville de Thèbes est la proie. Si Dionysos agit de la sorte, c'est d'abord pour corriger les fausses rumeurs jadis lancées à son sujet par les sœurs de sa mère Sémélée. Alors que celle-ci aurait dû la soutenir et attester sa relation amoureuse avec Zeus, et par suite le caractère divin de Dionysos né de cette liaison, elles se sont empressées de dégrader le fils du dieu au rang de simple mortel. Jalouses du privilège amoureux accordé par Zeus à Sémélée, elles ont prétendu et sont parvenues à faire croire que si le puissant dieu a foudroyé leur sœur, ce n'est nullement pour se montrer à sa bien-aimée dans toute sa splendeur, mais au contraire pour la punir d'avoir voilé sous des traits divins une aventure illicite avec un homme. Leur jalousie était telle qu'elles en sont venues à décrédibiliser leur propre père, Cadmos, le fondateur de la ville, faisant croire que cette histoire n'était que pure invention de sa part pour la sauvegarde de son honneur et de celui de sa fille chérie. Mais ce n'est là que mensonge, calomnie de femmes jalouses, engagées sur un chemin de pensée égoïste. On a beau dire, on a beau faire, Dionysos est bel et bien fils de Zeus. Son importance et influence doivent être reconnues comme telles. Et voilà justement que Dionysos pique les sœurs de sa mère de mania, de folie. Voilà qu'il frappe leur cœur de démence, les pousse à quitter leur maison, les fait habiter loin de la cité, dans les montagnes, les pousse à porter la nébride et le thyrse et à proférer l'Olelugée. Et Dionysos ne se contente pas de détourner de leur chemin les seules sœurs de Sémélée, les filles de Cadmos. Non, toutes les Cadmènes, comme on les appelle, c'est-à-dire toutes les habitantes de Thèbes fondées par Cadmos, sont prises de délire bachique et s'en vont, dans un cortège de folie, vivre en pleine nature, parmi les rochers, les sapins et les animaux sauvages. Si Dionysos bouleverse ainsi le bon ordre thébain, s'il se manifeste aux mortels comme la divinité qu'il est, ce n'est pas uniquement pour corriger le mauvais comportement de ses tantes et pour réhabiliter sa mère Sémélée, mais aussi pour permettre à ces mystères bachiques, qui dévoilent les mystères de la vie elle-même, de gagner la place qui leur revient. La place que l'arrivée au pouvoir, les idées et la volonté de Panthée, le petit-fils de Cadmos, ont réduit à néant. Panthée refuse en effet Dionysos comme divinité, et par suite l'exclut, lui et toute la vie qu'il incarne et stimule, de Thèbes et de ses cultes. Nul ne tient compte de sa divine naissance, nul ne s'occupe de lui lors des libations et prières aux dieux, nul ne reconnaît l'importance de ses mystères pour la vie. Mais Dionysos, le fils de Zeus, est de retour sur ses terres, et il a plus d'un tour dans son sac pour se faire reconnaître chez lui et faire recouvrer à la cité et à ses habitants l'équilibre perdu sous la croissante influence des structures rationnelles qui stérilisent la vie. Aussi le dieu ne doute-t-il pas le moins du monde de la réussite de son entreprise. Ce n'est qu'une affaire de temps. Quand il aura rétabli l'harmonie à Thèbes, il s'en ira voir ailleurs s'il y est pour rappeler sa présence dans tous les autres lieux où il est également négligé. Et attention, Dionysos n'est pas seulement un dieu de la folie, de l'astuce et de l'intrigue. Si c'est l'intolérance et l'hostilité qui répondent à son arrivée à Thèbes, il usera de la force. Si on reste sourd au retour du dieu, si on ne se rend pas à l'évidence de sa nécessité, Si on vient à se révolter contre sa présence et à choisir la violence pour ramener les femmes à la claire raison et morale établie, Dionysos ne manquera pas de se placer à la tête des Bacchantes pour écraser avec elle toute résistance. Telle est finalement la raison pour laquelle il a masqué son aspect divin sous forme humaine, pour pouvoir intervenir sur place, pour ainsi dire de l'intérieur, en s'immisçant dans les femmes elles-mêmes, plus sensibles, plus réceptives et plus génératrices que les hommes, et partant plus à même de rétablir l'équilibre perdu et de célébrer et propager comme il se doit les mystères dionysiaques de la vie.